Démarrer, pardon, la journée sur une note fermement positive. Le marché parisien marque le pas à présent. Le CAC 40, qui ce matin avait grimpé dans la première heure de cotation à 10 points de son record annuel, est ensuite venu osciller autour des 4500 points avant finalement de revenir hésiter sur son niveau d'équilibre. Actuellement, l'indice grappille 0,09%. Il est à 4495 points. Le tout dans un volume d'affaires qui approche les 2 milliards d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Sur les autres places européennes, l'hésitation se retrouve puisque Francfort 7,009%, Londres fait mieux, plus 0,17%, et l'Euro First 80, l'indice de référence de la zone euro, fait un petit peu la synthèse de tout cela puisqu'il se replie actuellement de 0,05%. Et puis du côté d'échange, l'euro lui reste fragile contre la devise américaine. La monnaie unique cote en ce moment 1,2321. Voilà Claire, je vous rappelle le CAC 40 qui lui gagne un petit 0,09%. Il est à 4495 points à la Bourse de Paris. Pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 25 février 1922, l'exécution d'un des plus célèbres tueurs en série de l'histoire, Henri Désiré Landru.
"283 maîtresses en 4 ans. Vous avez tout consigné là-dedans, y compris celles qui ont disparu. Vous jouez avec votre tête, ne l'oubliez pas."
"Alors vous avez tué comment, ces dames ?"
"Je n'ai tué personne."
D'histoire. Le soir du 24 février 1922, une dépêche laconique annonçait qu'une exécution capitale aurait lieu le lendemain à l'aube devant la prison Saint-Pierre de Versailles. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans toutes les salles de rédaction de France et des dizaines de journalistes quittèrent aussitôt Paris pour assister à la mort d'un tueur en série dont tout le monde ignorait encore le nom 3 ans plus tôt. Avec sa fameuse barbe noire, ses yeux inquiétants et la sinistre cuisinière de sa maison de Gambet, dans laquelle il faisait disparaître ses victimes, Henri Désiré Landru n'a pas cessé de nous fasciner, au point d'inspirer en ce moment même un livre, une pièce de théâtre et ce téléfilm qui sortira lundi prochain sur TF1, 83 ans après la condamnation à mort d'un des criminels les plus célèbres de l'histoire.
À la question... L'accusé est-il coupable des 11 meurtres dont on l'accuse? Le jury a répondu oui à l'unanimité.
Alors Landru, la cour vous condamne à la peine de mort. Au terme de la loi, tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Silence! Vous serez conduit en place publique de Versailles où aura lieu l'exécution. Silence!
Avez-vous quelque chose à rajouter?
Je n'ai qu'une seule chose à dire. Le tribunal s'est trompé, je n'ai tué personne.
La séance s'est levée.
Gérard Jouguet, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était l'extrait d'un excellent téléfilm qui sera diffusé lundi prochain sur TF1. Landru qui, 83 ans après sa mort, défraye encore la chronique puisque on le retrouvera également prochainement au Théâtre Marigny dans une pièce de Laurent Ruquier qu'il fait la une du numéro d'Historia de ce mois-ci et que vous avez vous-même, vous venez vous-même de lui consacrer un livre aux éditions de l'Archipel. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on parle plus de Landru que d'autres tueurs dont le palmarès, si je puis dire, est plus impressionnant, comme Petiot, comme Guy Georges, comme Thierry Paulin, sans parler bien sûr de Fourniret aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'au panthéon des tueurs, Landru occupe encore la première place?
Alors, je crois qu'il y a un élément de réponse dans la réplique que l'on a entendue tout à l'heure. Landru dit « Je n'ai tué personne ».
Il a toujours nié.
Il a toujours nié. Alors, évidemment, on ne va pas plaider pour l'innocence de Landru. La question est ailleurs. Mais dans toutes les mémoires, cette interrogation demeure.
Et c'est ce qui fait la légende. Sans preuve matérielle, voilà.
Sans preuve matérielle, sans corps. sans tragédie sanglante, parce que tout est supposition, et les faits sont quand même assez peu nombreux, allant dans la direction de la culpabilité. Alors, Landru, point d'interrogation, coupable ou innocent, c'est ce qui fait sa légende, et c'est ce qui fait perdurer l'image que l'on a de lui. Et puis aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que Landru arrive à une époque de fracture, c'est un siècle nouveau, une société nouvelle qui s'installe après la guerre. Aujourd'hui, s'il a probablement ce regain de succès, c'est parce qu'on se trouve dans une situation un peu semblable, d'un renouvellement de l'histoire.
Puis il y a tous les mystères qui planaient de son vivant sur lui. Landru, d'abord, je crois que Boudard disait, Alphonse Boudard disait, si c'était pas appelé Landru ou si c'était appelé Tartempion, qui était d'ailleurs un des noms, un des pseudonymes qu'il avait utilisé, parce qu'il en a choisi des quantités, hein. Il s'est appelé Dupont, Frémiet, etc.
Oui, on en décompte 90 au minimum.
Mais il y a aussi un visage tout à fait étonnant que l'on voit évidemment sur la couverture de votre livre, de célèbre photo à l'époque du procès. Le contraste aussi entre la réputation de bon père de famille, de bon mari, même s'il avait une maîtresse, et puis l'horreur de ses crimes, quand on a su effectivement qu'au fond... C'était presque un père exemplaire, encore qu'il ait été escroc. Hein. Il a été, son premier crime date de 14, il a 45 ans, et avant, il y a quand même une série d'escroqueries, déjà.
Ah oui, pendant une vingtaine d'années, il s'est essayé à la criminalité douce, si j'ose dire. C'était un jeune homme ambitieux, mais qui n'a jamais concrétisé ses ambitions, son désir d'être quelqu'un dans la société de son temps, gagnant de l'argent, ayant pignon sur rue, se faisant valoir. Et au bout d'un certain nombre d'années d'échecs, il a glissé progressivement de l'escroquerie jusqu'au crime, en s'essayant naturellement à ce qui était très en vogue à l'époque, l'escroquerie au mariage.
Alors justement, on est en 1914, ce qui fait aussi que son crime a intéressé les gens, c'est la méthode qu'il a pu employer. Il séduisait ses victimes en leur promettant le mariage, pourvu bien sûr qu'elles disposent de quelques économies ou de quelques meubles, et cela, quelle qu'en soit l'origine.
Monsieur Dupont, non, n'ayez pas peur, ils ne sont pas méchants. Bon, le pudding, laissez monsieur le consultant, je vous en prie. Allez. Je préfère ne pas vous raconter d'histoire. Ma vie n'est pas celle d'une sainte. Bon, un petit peu fait le trottoir, mais bon, ça suffit, j'arrête, j'en ai assez, je me range. Je veux une vie convenable et quelqu'un de sérieux. J'ai mis un petit peu d'argent de côté, enfin, un peu quand même.
Tout de même.
2000.
C'est tout à fait honorable, même si pour moi c'est une question très secondaire. Ce qui est important, ce sont les qualités de la personne.
Oh, ce qui compte le plus pour moi, c'est que vous aimiez les bêtes.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime.
Miss Tinguette, mon homme, chanson de 1920, peut-être inspirée d'ailleurs par Landru. 1920, c'est le début de l'affaire Landru. Je crois que Miss Tinguette était présente à son procès, au procès de Landru, accusé d'avoir assassiné donc 10 des 283 femmes qu'il avait rencontrées, qu'il avait séduit. Parce que c'est un séducteur, Landru. C'est curieux, c'est pas un bel homme pourtant.
Alors, c'est un bel homme pour l'époque. Bien sûr, aujourd'hui, il a cette allure de petit homme noir et dangereux. Mais à l'époque, c'était le bourgeois que un certain nombre de femmes souhaitaient épouser pour vivre une vie décente, parce qu'il leur faisait évidemment valoir et miroiter un avenir radieux à ses côtés, souvent à l'étranger, dans les colonies. On a entendu dans l'extrait qu'il se faisait passer pour un ambassadeur.
Consul.
Donc tout cela séduisait des femmes qui, au sortir de la guerre, étaient veuves ou simplement sans argent.
Même pendant la guerre, c'est un pays sans hommes, car le premier cas, c'est en 1914. Alors, il y a des femmes très différentes, vous le montrez, Gérard Jaeger. Là, ce qu'on a entendu dans cet extrait, c'était une prostituée rangée, en tout cas qui voulait se ranger avec ses chiens et qui était séduite par Landru. Mais il y avait des quantités de femmes...
Oui, c'est pas le meilleur exemple, probablement. C'est une femme un peu à part. part dans la série de celles qui ont disparu, ou du moins dont on a la preuve de la disparition, la plupart des autres sont des femmes de petites conditions, à peine bourgeoises. On parlait à l'époque de femmes, de concierges, on parlait de femmes de très petites conditions qui levaient les yeux vers Landru. Bon, il a séduit d'autres femmes, des femmes, j'allais dire, un peu plus éduquées, du moins sur le plan sentimental, pour ne pas se faire piéger par lui, et il a été remis à sa juste place par ces femmes-là. Donc s'il en a rencontré effectivement 283, tel est le décompte final que l'on peut avancer aujourd'hui, 10 victimes, direz-vous, c'est peu de choses.
10 plus une, qui était le fils de la première.
De la première
victime,
femme, effectivement.
Donc un homme, une femme, oui.
Voilà. Mais pour des raisons toujours évidentes, c'est que, on a parlé d'escroquerie tout à l'heure, il était quand même punissable de la pire des choses à l'époque, c'est de la relégation. C'est-à-dire que dès qu'on allait mettre la main sur lui après la guerre, puisque la parenthèse de la guerre était importante, on s'occupait d'autre chose que de courir l'escroc. Donc il a pu sévir en toute impunité pendant cette période-là. Or, après la guerre, on va commencer à s'attaquer à ces gens-là qui y avaient échappé auparavant. Et reléguer à Cayenne, ça veut dire mourir.
Alors, il les rencontrait simplement dans le journal, c'était par petites annonces. Ça se passait comment, Gérard Jaeger, donc il allait au rendez-vous. Il avait un carnet d'ailleurs, enfin un agenda très compliqué, parce qu'il a rencontré plusieurs à la fois, 283 femmes en l'espace de 3 ou 4 ans à peu près. C'était quand même assez extraordinaire, c'était un homme très organisé.
Oui, il le fallait pour ne pas se tromper, bien entendu. Et après chaque rendez-vous, il notait ce qu'on lui avait dit, et notamment, j'allais dire souligné, crayon rouge, le montant éventuel de la fortune de ces femmes. Parce que si ces femmes cherchaient chez Landru la sécurité, Landru, chez ses femmes, cherchait à son tour les moyens de financer sa vie et sa famille.
Alors, il y a quand même deux exceptions, Gérard Jaeger. D'abord, une très jeune, parce que la plupart étant veuves, n'étaient plus toutes jeunes. Il y en a une de 19 ans, hein, qui n'a pas d'argent du tout, qui l'a quand même assassiné, sans doute, hein, André Bablet. Et puis alors, sa maîtresse, qui l'a échappé belle, a été au courant de rien, Fernande Segret, dont il est vraiment amoureux.
Oui, c'est la curiosité de ce personnage, et ça fait aussi son intérêt. Et c'est pour ça que longtemps on a balancé entre l'amour que l'on portait à Landru, l'intérêt qu'on lui portait, et puis le désamour par la suite, lorsqu'on a vu que finalement ça n'était pas l'homme auquel on pensait. Alors, André Babelin, c'est vrai qu'il la rencontre un jour sur un banc, pleurant, disant qu'elle est abandonnée, il la recueille chez lui. Et puis il apprend très vite, comme pour plein d'autres de ses rencontres, qu'elle n'a pas d'argent. Alors, il va lui en donner. Bon, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, a-t-il un cœur? Oui, probablement. A-t-il des rêves? Mais de quelle nature? On ne le saura jamais, puisqu'il ne l'a pas avoué.
En tout cas, ce sont des femmes seules, presque toutes, pour que personne, évidemment, ne s'inquiète de leur disparition quand il les amenait dans les deux maisons de campagne qu'il avait louées, d'abord à Vernouillet, puis à Gambet, dans les Yvelines.
C'est le grand départ.
Non, le grand départ, c'est pour dans 3 semaines. Là, je vais juste passer quelques jours dans sa propriété à la campagne, tout près de Paris.
Voilà. Soyez prudente tout de même.
Ça, comptez sur moi. Et puis, avec lui, je ne vais pas m'en faire. C'est vraiment quelqu'un, vous savez, monsieur Frémet, c'est vraiment quelqu'un. Non, réfléchissez, madame, que c'est-à-dire avoir sous la main un homme d'affaires aussi avisé et pour m'en servir.
Non, mais quand même, est-ce que c'est bien raisonnable de lui avoir donné cette procuration sur tous vos biens?
Mais il m'aime, madame Cussac, il m'aime. Bon, allez, j'y vais. Allez, au revoir.
Landru, 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 vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru, Landru, ton crâne et ton poil de rue ont fait tomber bien plus d'un prix de vertu. C'était, je crois, en 1923, que ton procès eut le succès que l'on sait. Landru, Landru, dommage qu'elle t'ait cru, toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi. Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais: venez ma douce amie, allons vite à Gambet. J'ai une petite villa, rien que monter des cendres, et là seule montait et descendait ton sang.
Landru. Et c'était Charles Trenet, lui aussi inspiré par Landru, dont le procès avait lieu en 21-22 et non pas en 1923. Mais je suppose qu'il y avait une rime à respecter, Gérard. Jaeger, en tout cas, Trenet fasciné aussi par cette fameuse maison de Gambet, près de Houdan, où Landru aurait fait disparaître ses victimes en les brûlant dans une cuisinière. Alors je parle au conditionnel, comme vous le faites aussi de cette manière, dans votre livre, parce qu'au fond, Landru ayant toujours nié la responsabilité de ses crimes, comme on n'a pas trouvé de traces non plus des victimes, à part les deux chiens de la madame Marchandier dont on parlait tout à l'heure, ou les trois chiens, on n'a jamais su au fond comment il les avait tués, et comment il les avait fait disparaître.
Tout est spéculation, c'est évident. Le fait qu'elles aient disparu et qu'elles n'aient jamais plus donné signe de vie par rapport aux autres dont on a eu la liste et que l'on a pu interroger au procès, j'allais dire, il n'y avait qu'un pas pour les jurer, dire si elles ne se manifestent pas, c'est qu'elles sont mortes. Mais comment sont-elles mortes? Il est impossible aujourd'hui de le dire. Alors, on a trouvé dans sa cave notamment des scies. Bon, on a trouvé des boîtes de cartouches, on a trouvé des lacets sous des traversins. Donc on a imaginé qu'il les étranglait, qu'il les tuait d'une manière ou d'une autre dans sa cuisine, et qu'ensuite, les ayant dépecés, ou du moins ce qui était identifiable, la tête et les membres notamment, il les aurait ensuite brûlés dans cette fameuse cuisinière dont on a vu à Gambet sortir de la cheminée des fumées noires.
Alors, ce qu'on a retrouvé aussi, ce sont des meubles de ces victimes, parce que évidemment, il les tuait pas par sadisme, sans doute, hein, après tout, on n'en sait rien, mais surtout pour avoir leurs meubles, pour liquider leurs comptes, et ces meubles, on les a retrouvés, en fait, c'était l'objectif, le mobile, il était crapuleux, bon, sans se faire du tout une fortune, ces gens-là n'étaient pas très fortuné, ces femmes-là, et il a pas fait beaucoup d'argent, en fait.
Non, mais non, absolument pas. Ça se chiffre, je dirais, autour des 30 000 francs, enfin bon, de l'époque. On a calculé...
Alors qu'il y avait des investissements, il fallait louer les appartements, il fallait payer les allées et pas les retours. Hein, enfin, deux allées pour Gambet et un seul retour.
C'est exact. La seule chose que l'on sait et qu'il a avoué, c'est que il était brocanteur. Bon, c'est-à-dire qu'effectivement, il fallait bien qu'il achète ou qu'il vole ou qu'il se saisisse des biens de ses victimes pour ensuite les revendre. C'était des choses insignifiantes et qui rapportaient très peu. Vous avez raison.
Et ce petit manège a duré comme ça entre 1914 et le jour de son arrestation à Paris, rue Rochechouart, le 11 avril 1919.
Police, ouvrez!
Monsieur Landru,
vous faites erreur, je me nomme Guillet.
Très bien, oui. Vous déclinerez toutes vos identités au juge d'instruction. Au nom de la loi, je vous arrête. Plusieurs témoins vous ont vu à Gambet avec une jeune femme. Où est-elle? Qu'en avez-vous fait?
Celui-là. Cet homme n'a rien fait, commissaire.
Ne vous faites pas de soucis, ce n'est qu'un malentendu que nous allons dissiper.
Mais c'est ça, un malentendu. Ah,
sous mandat de dépôt, le créneau de charge pèse contre lui la disparition de trois femmes. L'enquête va se poursuivre, vous aurez des informations plus tard.
Et alors, c'est le véritable début de l'affaire Landru qui ne devient célèbre, sans doute, que le jour de son arrestation. Tout de suite, on y reviendra. La presse se passionne pour cette affaire. Mais d'abord, comment a-t-il été arrêté, puisqu'il changeait constamment de nom, d'identité, de métier? Comment a-t-on découvert Landru?
C'est un peu par hasard, un peu comme souvent le cas dans les enquêtes policières. Hein. D'abord, il y a eu quand même une plainte déposée contre X par un parent d'une disparue. Bon. Et puis les choses ont traîné jusqu'au jour où un témoin qu'il avait rencontré avec une de ses femmes séduites le rencontre dans Paris dans un magasin de porcelaine. Et elle avertit la police à ce moment-là en disant « Je suis persuadé d'avoir vu Landru ». La police dépêche un inspecteur sur place. Évidemment, il a disparu à ce moment-là, mais on retrouve sa trace parce qu'il a acheté de la porcelaine dans ce magasin et il a laissé son nom et des arts. Et on est sur la piste d'un certain d'un homme qui n'est pas Landru, en fait, parce qu'on ne connaît pas son nom
à ce moment-là, il en avait tellement.
Et donc, on part à la recherche de cet homme avec l'adresse qu'il a laissée, et c'est la scène que l'on vient d'entendre, où on l'arrête 76 rue de Rochechouart, et là, c'est un certain Lucien Guillet que l'on arrête. Mais lorsqu'on en arrive au commissariat et que l'on fouille un peu dans les archives d'avant-guerre de la police, on se rend compte que ce Lucien Guillet, nom qui avait déjà été utilisé à l'époque, est en réalité celui de Landru, qui sera confirmé par son permis de conduire que l'on retrouvera chez lui. Et à partir de ce moment-là, la machine judiciaire se met en route.
Pas mal d'erreurs de la part de Landru. Il y a aussi ce fameux carnet dans lequel il consignait tous ses rendez-vous.
Et qu'il portait sur lui au moment de l'arrestation.
Carnet noir.
Il quitte sa maison, il va au commissariat avec ce carnet dans la poche.
Alors, ce qui est passionnant aussi, c'est on s'en rend peut-être pas bien compte aujourd'hui, parce qu'immédiatement, les faits divers sont devenus une partie importante de la presse d'aujourd'hui. À l'époque, c'était pas le cas. Et c'est à cette époque-là, avec Landru, qu'ils prennent une place considérable dans la presse écrite, Gérard Jaeger.
Oui, d'ailleurs.
Ce qui a fait la célébrité. De Londres,
voilà, le lendemain, un écotier de Paris, mais vieux routier des affaires judiciaires, apprend cette arrestation. Et dans Le Petit Parisien, il écrit un article en appelant le personnage Nandru et non pas Landru, ça a rectifié le lendemain, et l'on déclare simplement que l'on a arrêté un escroc. Bon, mais on ne fait aucun rapport avec ce que l'on finalement ne sait pas encore sur sa véritable identité et sur ce qu'il a fait réellement. Mais ces journalistes-là, habitués aux faits divers, habitués à ce genre de situation, se rendent compte tout de suite qu'il y a là, qu'ils ont ferré un gros poisson et qu'il y a derrière les dénégations de Landru quelque chose de très mystérieux qui sera très difficile à expliquer. Et les journalistes, peut-être avant même la police, repérera là le héros du siècle.
Oui, parce que pendant toute la durée d'une instruction qui était très longue, je crois qu'elle durait près de
deux ans, oui.
C'est même pas qu'il nie, il refuse de répondre. Il est totalement muet.
Voilà, oui, totalement. Parce qu'il est à ses yeux dans son bon droit. C'est ça qu'il faut retenir quand même. C'est que ce glissement progressif de l'escroquerie jusqu'au crime a fait penser à Landru que puisque la société ne l'avait pas reconnu, il allait faire ce qu'il estimait être dans son droit de faire, c'est-à-dire gagner sa vie à sa manière à lui, et que tout compte fait, c'est lui qui avait raison. Donc c'est un cas psychiatrique.
Alors, il nie donc la responsabilité de ses crimes, ce qui a donc permis, évidemment, dès le début de son procès, le 7 novembre 1921, à son avocat, le très célèbre maître de Moreau Giafferi, de plaider l'innocence de son client en entretenant le doute des jurés.
Toute cette affaire n'est bâtie que sur des hypothèses. Messieurs les jurés, toutes ces femmes que l'on accuse mon client d'avoir fait passer de vie à trépas dans d'atroces conditions, si je vous disais qu'elles attendent derrière la porte, derrière cette porte, si je vous dis qu'elles vont entrer, qu'elles entrent, vous avez tous tourné la tête. Et si vous avez tourné la tête, c'est parce que vous n'êtes pas sûr qu'elles soient mortes. Vous avez un doute. Vous êtes tenaillé par le doute. Et malgré cela, vous enverriez un homme à la guillotine.
Très belle plaidoirie, maître. Tout le monde a tourné la tête, en effet. À l'exception de votre client.
C'est vrai, Landru. Vous n'avez pas tourné la tête.
Monsieur le Président, vous parlez si souvent de ma tête que je regrette de n'en avoir qu'une à vous offrir.
C'était un des grands moments de ce procès extraordinaire qui était le procès Landru, Gérard Jaeger, le talent de maître de Moreau Giafferi qui fait croire et qui laisse planer le doute jusqu'au bout, l'humour aussi de Landru. Il y avait un monde fou d'ailleurs à ce procès. On y venait par train presque spéciaux de Paris à Versailles, ce qu'on appelait le train Landru.
Tout à fait, c'était un spectacle, c'est-à-dire que l'on allait au tribunal comme on allait au théâtre, à la Comédie Française, et l'on se battait pour obtenir des places. Dans les files d'attente, il y avait notamment des clochards qui cédaient leur place au prix fort et qui se faisaient ainsi un peu d'argent. Il y avait vraiment le tout Paris, comme on a l'habitude de le dire. Et cette ironie de Landru ajoutait évidemment au spectacle. C'était comme un scénario écrit d'avance. Mais Landru a bien compris qu'il était en train de jouer sa tête. Et s'il a basculé dans l'ironie, c'était probablement son barreau d'honneur. Et c'est en quelque sorte ce qui a plu, mais qui va déplaire au jury. Ce qui a plu au public et qui va déplaire au jury. Et ça va se retourner contre Landru.
Parce que le jury se laisse pas effectivement influencer. Il est condamné à mort en février, non, début 22, je crois. Il sera 25, exécuté le 25 février 1922. Avec ce dernier mot, paraît-il, son avocat, maître de Moreau Jaffery, lui dit, enfin Landru, dites-moi la vérité, maintenant vous n'avez plus rien à perdre. Et Landru lui aurait dit, juste avant de mourir, c'est mon secret, je l'emporte, c'est mon petit bagage.
Ah oui, la phrase est attestée historiquement, effectivement, par l'avocat. Ça ajoute au mystère, et c'est à partir de là que s'il y a eu un train Landru, il y a eu un mystère Landru et une histoire Landru.
Mais des fantasmes, on l'avait revu vivant à Buenos Aires, cela, ultérieurement.
Oui,
Fernande Segré aussi, qui se suicide, ça c'est tragique, sa maîtresse, 46 ans après, en 1968, la famille qui a totalement disparu dans la nature. Mais c'est aussi quelque chose, et c'est ce qu'apporte votre livre, Gérard Jaeger, c'est au fond, c'est le produit d'une époque. C'est peut-être pour ça, les gens de l'époque se sont reconnus dedans. Et aujourd'hui même, on peut comprendre, c'est presque la circonstance atténuante de Landru, il est le produit d'une époque qui sort, ça s'est passé pendant la guerre, mais qui sort de la guerre au moment du procès.
Oui, tout à fait. C'est... Si Landru physiquement représente déjà son époque, la façon de se défendre, de jouer son rôle jusqu'au bout, était également un rôle de l'époque. Il est dans un vaudeville. Bon, alors on passe en permanence de la tragédie à la comédie, et finalement c'est un vaudeville tragique, puisque ça se termine par la peine de mort. Mais une peine de mort, tout de même, on se demande vraiment si les jurés ne l'ont pas regretté. D'ailleurs, ils vont signer tout de suite la demande de grâce présidentielle, qui ne sera pas accordée, mais comme une espèce de dernier remords, en se disant et si on s'était trompé. Alors
oui.
De Moreau Jaffery, c'est un petit peu le badinter, si vous voulez, avant terme. Il se bat un peu contre la peine de mort aussi, pour la bonne conscience des jurés et de la France, parce qu'il ne veut pas que la France un jour regrette ce geste.
Landru, bourreau des cœurs, c'est donc le titre de votre livre, Gérard Jaeger, qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Vous êtes également l'auteur aux éditions du Félin d'une biographie du bourreau Anatole Desblair, l'homme qui trancha 400 têtes, dont celle de Landru, justement, une tête que l'on voit d'ailleurs partout en ce moment sur la couverture du dernier numéro de la revue Historia, qui consacre ce mois-ci un grand dossier à la vie de Landru, mais aussi donc lundi prochain sur TF1 à 20h50, un excellent téléfilm dont vous avez pu entendre des extraits, Désiré Landru de Pierre Boutron avec un formidable Patrick Timsit dans le rôle titre. Enfin, au Théâtre Marigny, à partir du 1er décembre prochain, Landru, une pièce de Laurent Ruquier, avec Régis Laspalès dans le rôle de Landru. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, où nous avons reçu de très nombreux courriels d'auditeurs inquiets qui se demandent pourquoi ils ne peuvent plus écouter les 7 dernières émissions sur Internet. Eh bien, elles seront à nouveau disponibles à partir de mercredi, en allant à la rubrique Écoute sur notre site de 2000 ans d'histoire. Ben moi aussi, comme Landru, mais elles n'ont pas le même sort, elles n'auront pas le même sort. J'étais entouré de beaucoup de femmes aujourd'hui. Clotilde Thomas, Anne Le Guénèque, Camille.